Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إن وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le vendredi 4 Farvardin, 1402 du calendrier iranien, 24 mars 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information et notre commentaire politique. L'Iran appelle la France à engager le dialogue avec son peuple. L'Iran dénonce le raid israélien sur l'aéroport d'Alep en Syrie. Attaque au missile contre une base américaine dans le nord-est de la Syrie. Et au mois de Ramadan, des milliers de Palestiniens effectuent la prière du vendredi à la mosquée Al-Aqsa. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. La représentante adjointe de l'Iran auprès des Nations Unies a déploré la dernière frappe aérienne d'Israël contre l'aéroport d'Alep, dans le nord de la Syrie, affirmant que le raid constituait une violation des principes humanitaires internationaux, de la Charte des Nations Unies et une grave menace pour la paix et la stabilité dans la région de l'Asie de l'Ouest. S'adressant dans une réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, sur la situation au Moyen-Orient, à New York, jeudi 23 mars, Mme Zahra Ershadi a déclaré qu'en dépit du droit international qui interdit de cibler les infrastructures civiles vitales et qui oblige d'observer les principes humanitaires, le régime israélien continue de commettre des actes d'agression et des attaques terroristes contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie, en ciblant délibérément et systématiquement ses infrastructures critiques. La diplomatie iranienne rejette par la voix de son porte-parole une déclaration émise mercredi par le Conseil de coopération du Golfe Persique qui soutient la revendication des Émirats arabes unis sur les trois îles iraniennes d'Abu Moussa, la Grande et la Petite Tombe. Nasser Kanani dit que les trois îles sont une partie inséparable du territoire iranien. Le diplomate iranien a également rejeté certaines parties de la déclaration concernant les activités nucléaires de la République islamique d'Iran. La déclaration appelle Téhéran à remplir ses obligations nucléaires et à coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nasser Kanani a déclaré que l'Iran est conscient de ses responsabilités et engagements internationaux et les a toujours respectés. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a appelé les autorités françaises à répondre aux exigences des centaines de milliers de Français qui ont défilé à travers leur pays et contre la réforme des retraites plutôt que d'attiser les troubles dans d'autres pays. L'Iran a critiqué le gouvernement français pour sa réponse brutale aux manifestations en cours dans le pays. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a exhorté les autorités françaises à cesser de recourir à la violence contre les manifestants. Il a déclaré que Téhéran ne soutenait pas la destruction ou les émeutes, mais qu'il revient au gouvernement de Paris d'entrer en dialogue avec son peuple, de parler aux gens et d'écouter leur voix. Le projet de réforme des retraites du président français a déclenché des grèves et des manifestations dans toute la France depuis son annonce en janvier. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Une base américaine dans le nord-est de la Syrie a été la cible d'une attaque au missile quelques heures après que Washington a annoncé qu'elle ciblait les groupes de résistance dans la région. La base est située dans le champ pétrolifère d'Al-Omar, dans la province syrienne de Deir ez-Zour. Aucun groupe n'a pris la responsabilité, mais une source militaire en Syrie a déclaré plutôt à la chaîne Press TV que l'action décisive serait entreprise en réponse au raid aérien américain. Jeudi, une base américaine près de Hasaka a également été attaquée par un avion sans pilote, tuant un sous-traitant américain et blessant 5 militaires américains. Washington a stationné des centaines de soldats en Syrie sous prétexte qu'ils combattent les groupes terroristes comme Daesh. Le gouvernement syrien, cependant, considère les troupes comme des occupants. Damas affirme que la présence militaire américaine sur le sol du pays viole sa souveraineté et vise à piller ses ressources naturelles. Des musulmans palestiniens se rassemblent dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Quds pour assister à la première prière du vendredi du mois béni de Ramadan. Des milliers de fidèles palestiniens ont accompli la première prière du vendredi du mois sacré de Ramadan à la mosquée Al-Aqsa. Selon les médias palestiniens, malgré les mesures de sécurité accrues et les restrictions créées pour les Palestiniens, des milliers de citoyens palestiniens vivant à Quds orientale et dans d'autres territoires occupés sont venus à la mosquée Al-Aqsa pour accomplir la prière collective du vendredi du mois sacré du Ramadan. Les militaires du régime d'occupation d'Israël ont renforcé leur présence dans la ville de Quds et notamment autour de la mosquée Al-Aqsa. Les médias palestiniens ont annoncé vendredi que la police du régime sioniste avait renforcé ses forces répressives dans la ville de Quds occupée en déployant 2000 nouveaux militaires. Selon les informations de ces médias, deux bataillons de réservistes sont également envisagés pour intervenir si nécessaire dans la vieille ville de Quds et la mosquée Al-Aqsa. Et enfin, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, affirme que plus d'un demi-million d'enfants yéménites de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë potentiellement mortelle. L'UNICEF a publié l'avertissement dans un nouveau rapport, ajoutant qu'un enfant yéménite meurt toutes les 10 minutes de causes évitables. L'organisme mondial a déclaré qu'un total de 11 millions d'enfants ont besoin d'aide humanitaire au Yémen. L'UNICEF, cependant, a averti qu'il pourrait devoir réduire son soutien aux enfants yéménites sans augmentation de financement. L'organisation a affirmé avoir besoin de toute urgence de 484 millions de dollars en 2023 pour poursuivre son intervention dans ce pays le plus pauvre de la péninsule arabique, dévasté par plus de 8 ans de guerre. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a appelé les autorités françaises à répondre aux exigences des centaines de milliers de Français qui ont défilé à travers tout leur pays et contre la réforme des retraites plutôt que d'attiser les troubles dans d'autres pays. Nasser Kanani a réagi dans un tweet aux protestations contre le projet du gouvernement français de relever l'âge de la retraite de 62 à 64 ans sans vote parlementaire. Il est rapporté que des manifestants ont incendié la mairie de Bordeaux et que les pompiers se sont joints aux manifestations nationales dans la dernière d'une série de protestations violentes qui secoue la France, a-t-il fait remarquer. Ceux qui sèment le vent récoltent la tempête, a poursuivi le haut diplomate iranien. Bien que Téhéran ne soutienne pas le sabotage et le chaos, il préconise tout de même aux responsables français de se soumettre plutôt aux exigences du peuple français et d'éviter l'exercice de la violence à son encontre et d'éviter aussi, si possible, de semer le chaos dans d'autres pays souverains, a écrit Nasser Kanani dans un tweet. Le gouvernement français devrait engager le dialogue avec son peuple et entendre sa voix. Ce genre d'attitude ne ressemble en rien avec celle habituelle des responsables français consistant à prêcher la morale aux autres, a-t-il dit avec une pointe d'ironie. Les manifestants français attendent également de voir la vidéo collective réalisée par des femmes ministres européennes, australiennes et canadiennes en soutien aux femmes françaises qui manifestent, a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Jeudi, des manifestants se sont rassemblés dans toute la France pour faire part de leur rejet de la loi faisant passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Les syndicats ont affirmé que 3,5 millions de personnes étaient descendues dans la rue, tandis que les autorités ont suggéré que le chiffre était bien inférieur, un peu moins de 1,1 million d'individus. Réforme des retraites, la situation échappe au contrôle des forces de l'ordre. La police française a tiré des gaz lacrymogènes et s'est battue avec ceux qu'elle a qualifiés de voyous à Paris et dans toute la France, jeudi, alors que des centaines de milliers de manifestants défilaient contre le projet du président Macron pour la retraite. Le 9e jour de manifestations à l'échelle nationale, pour la plupart pacifiques, a perturbé les voyages en train et en avion. Les enseignants faisaient partie des nombreuses professions qui ont quitté leur emploi quelques jours après que le gouvernement ait fait adopter une législation visant à relever l'âge de la retraite de 2 ans. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que 441 policiers avaient été blessés et 457 personnes arrêtées à travers tout le pays. Des dizaines de manifestants ont également été blessés, dont une femme qui a perdu un pouce dans la ville normande de Rouen. De petits groupes ont continué à affronter la police à Paris jusque tard dans la nuit et il y a eu le feu dans plusieurs quartiers de la capitale. La police française a également tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants dans plusieurs autres villes dont Nantes et Lorient dans l'ouest et Lille dans le nord. Des canons à eau ont également été utilisés contre les protestataires dans la ville de Rennes, située dans le nord-ouest de la France. Les syndicats craignent que les manifestations ne deviennent plus violentes si le gouvernement ne tient pas compte de la colère populaire croissante. C'est une réponse aux mensonges exprimés par le président et à son entêtement incompréhensible, a déclaré Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe du syndicat SFDT. La responsabilité de cette situation explosive n'incombe pas aux syndicats, mais au gouvernement. Les syndicats bordelais ont appelé à une action régionale au cours du week-end et à de nouveaux grèves et manifestations à l'échelle nationale le 28 mars, le jour où le roi Charles de Grande-Bretagne doit se rendre à Bordeaux depuis Paris en train. Mercredi, Macron a rompu des semaines de silence sur la nouvelle politique, insistant sur le fait que la loi entrerait en vigueur d'ici la fin de l'année. Il a comparé les manifestations à la prise d'assaut du Capitole américain du 6 janvier 2021.
Bienvenue. Le sujet du jour, du débat d'aujourd'hui donc, se trouve être la Syrie, la situation syrienne au niveau international, au niveau de ses voisins arabes, s'est améliorée plus que ça même, puisqu'il a eu droit à une visite en Arabie Saoudite qui s'est faite en grande pompe. Tout de suite donc, nous allons faire venir nos invités, tous les deux d'un point de vue virtuel. Alors, première invitée étant Madame Aïssar Midani, l'une de nos experts. Bonjour Madame Midani.
Bonjour à toute l'équipe, bonjour à votre invité, Monsieur Luc Michel.
On rappelle que Mme Midani est franco-syrienne et c'est notre analyste, notamment sur les questions syriennes. Alors, vous l'avez compris, notre deuxième invité, Monsieur Luc Michel. Bonjour, Monsieur Luc Michel, ravi de vous avoir avec nous.
Moi aussi, bonjour à votre équipe et bien entendu à Mme Midani. Et joyeux Nowruz à tous les Iraniens.
C'est gentil à vous, merci beaucoup. Alors, Madame Midani, j'ai envie de commencer par vous parce qu'il y a quelques semaines, dans les mêmes studios, on avait parlé de la Syrie et vous vous disiez donc très optimiste, je reprends vos propos, concernant le futur syrien. On savait également que par le fait que Damas souhaitait stabiliser son pays, ils allaient devoir avoir une ouverture au niveau international. Vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu la réunion de la Ligue arabe, eh bien, on y a été question, mais il fallait que ce soit le monde arabe qui fasse le premier pas. Comment vous avez envie de commenter l'actualité syrienne de ces dernières semaines?
En effet, je crois que ce qui est assez remarquable, c'est que l'ensemble des pays arabes reviennent vers la Syrie peu à peu, en fait, je dirais. Bien sûr, Oman, Mascat, ils n'ont jamais coupé les relations. Les Émirats arabes unis ont coupé les relations en 2012, comme vous le disiez dans votre rapport, mais sous pression américaine. Et par contre, manifestement, il y avait beaucoup de relations sous la table aussi, ce qui explique le fait que maintenant, ce sont les premiers pays qui font des démarches aussi pour le retour de la Syrie à la Ligue arabe et pour la reprise des relations avec la Syrie, puisque tout le monde se rend compte peut-être que Ils étaient sur le mauvais chemin et ils avaient tort dans la mesure où toutes les allégations qui étaient avancées par les États-Unis pour cette guerre contre la Syrie sont des allégations fausses. Comme ça a été toujours le cas, comme on le sait, le monde occidental est un monde de mensonges médiatiques assez systématiques. Donc, ces allégations pour la Syrie ont été fausses. Je rappelle aussi que là, on est dans le 20e anniversaire de l'invasion de l'Irak, aussi sur des allégations fausses, sur la base de, soi-disant, la construction d'armes de destruction massive en Irak et que velléité d'envahir ses voisins, etc. Donc, n'empêche que ça a donné 1,5 million de morts et le pays a été complètement transformé de fond en comble, a été complètement détruit. Bon, bien sûr, les Irakiens reprennent maintenant ils ont déjà pansé leurs blessures et ils essayent de reprendre leur indépendance. La Syrie a bien résisté, donc a résisté à cette agression américaine en bonne et due forme, occidentale, moi je dirais, pas seulement américaine, c'est les États-Unis avec l'OTAN par des proxys interposés, par des terroristes qu'ils ont loués et des mercenaires en fait qu'ils ont loués à cet effet. L'échec de cette guerre terroriste en Syrie contre la Syrie a fait effectivement qu'il y a un nouveau monde qui apparaît. Et que le nouveau monde que nous voyons aujourd'hui poindre du nez et qui se forme réellement, la Syrie a été vraiment son initiateur, je peux dire, parce qu'elle a résisté pratiquement toute seule jusqu'en 2015 à l'agression américaine et OTAN. Et puis, à partir de 2015, le fait qu'elle ait demandé à la Russie de l'aide pour intervenir, et là, ça a été effectivement qualitativement important pour la libération de l'ensemble du territoire syrien, mais aussi ça a été important pour le changement du monde.
Merci, Mme Idani. Je me permets de vous interrompre parce qu'il y a une question qui se pose pour avoir discuté avec d'autres Syriens. Certains disaient que peut-être que M. Assad, le président Assad, ne serait pas élu aux prochaines élections parce que les Syriens seraient fatigués du conflit, chercheraient donc un président plus diplomatique. Est-ce qu'on peut dire que le président Assad répond donc à la demande de ses citoyens en tout simplement permettant la diplomatie, restant ouvert à la diplomatie? Et est-ce que c'est pas finalement, il répondra finalement à la demande de son peuple d'essayer donc à ce que les frontières soient beaucoup plus amicales qu'avant?
Nous n'avons agressé personne. Donc, les non-frontières, elles ne sont pas amicales par l'agression des autres. Le président Assad n'a agressé personne. Et il n'a éliminé personne. Ce sont eux qui nous ont agressés. La Turquie nous a agressés et jusqu'à maintenant, elle occupe une partie de notre territoire et elle anime aussi toutes les hordes terroristes qui sont à Idlib. Les États-Unis nous ont agressés et pillent nos richesses. de pétrole et de céréales et de blé et de produits agricoles comme le coton, importants comme le coton, comme les oliviers, comme tous les produits agricoles que fait la Syrie, et surtout dans cette région de Hasaké, nord-est de la Syrie, elles sont pillées par les Turcs, par les Américains, toujours par proxy interposé, mais les Américains, quand ils pillent le pétrole, ils le pillent eux-mêmes tout seuls. Et merci, tous les jours, il y a des centaines de citernes qui partent vers leur base qui est à Shedadi, qui est dans le nord-ouest de l'Irak.
Merci, Mme Denise, pour ce rappel. Alors, Monsieur Luc Michel, on voit une véritable concordance de calendrier ces deux dernières semaines, parce que si les choses ont bougé après que l'Iran ait fait cette signature diplomatique en Chine, tout s'est mis en place, mais pour l'Iran, ce n'est pas une date, faite par hasard, puisque c'est passé juste avant les fêtes de Nowruz, une date extrêmement importante pour le calendrier donc, iranien. Vous-même, quand vous voyez cette concordance de calendrier, parce que beaucoup de choses se sont passées, il n'y a pas forcément seulement la rencontre de Assad aux Émirats arabes unis. Comme j'ai expliqué, avec l'Iran, la diplomatie vers les pays arabes a augmenté. Il y a également cette rencontre à Moscou avec Xi Jinping, mais également les panafricanisme, le forum panafricaniste à Moscou. Beaucoup de choses sont révélées dans ces deux dernières semaines. Vous-même, quand vous voyez cette concordance, vous y voyez une concordance? Est-ce le fruit d'un hasard, ou c'est bien ces trois pays, l'Iran, donc la Russie et la Chine, qui ont mis en place un calendrier afin de se préparer au printemps qui s'annonce extrêmement difficile, notamment en Ukraine?
Non, il y a une dynamique mondiale qui a été lancée par Poutine et qui est soutenu par l'Iran et la Chine, et qui vise à dynamiter l'ancien ordre mondial américain. C'est une dynamique vers un monde multipolaire, et la Syrie surfe sur cette dynamique multipolaire. Ce que nous assistons vis-à-vis de la Syrie, c'est l'échec du printemps arabe, sans même parler de l'Irak dont on fête l'anniversaire, le triste anniversaire aujourd'hui. Ce printemps arabe qui a détruit le Yémen, la Libye et la Syrie, qui a fait des millions de morts, c'est un échec complet. Le but du printemps arabe était deux décennies occidentales avant, c'était d'isoler la Syrie. Il y avait déjà eu ce qu'on a appelé improprement la révolution des cèdres, qui est une révolution de couleur occidentale au Liban visant à chasser la Libye. Tout cela, c'est un échec. Damas s'est désenclavée elle-même. Elle est reconnue par ses pères arabes et ce n'est que justice.
Merci, Monsieur Luc Michel. Madame Midani, malheureusement, aujourd'hui, il y a eu une attaque de l'aéroport de la capitale syrienne, Damas. Selon Sana, il n'y a eu que des dégâts matériels. L'un des plus gros ennemis, finalement, de la Syrie reste l'entité sioniste, comme l'est pour l'Iran, comme l'est pour le Liban. C'est finalement un ennemi qui concorde et qui provoque beaucoup de déstabilisation dans le pays. Et qu'est-ce que disent les dernières informations concernant cette attaque qui s'est passée donc aujourd'hui ou hier soir à Damas?
Bah écoutez, les Israéliens, ils n'arrêtent pas d'attaquer la Syrie. C'est toutes les deux semaines ou toutes les semaines pratiquement. Et ils attaquent les aéroports. Alors je tiens à dire quand même, c'est non seulement la Syrie ne les a pas agressés, mais en plus l'aéroport de Damas est un aéroport civil et c'est l'aéroport qui reçoit aussi les aides après le séisme. Donc c'est un double crime. Et l'entité sioniste s'enfonce dans ses crimes et s'enfonce dans ses agressions et dans ses violations systématiques du droit international et vraiment des droits humains, tout simplement. Donc c'est l'allié privilégié des États-Unis, c'est leur instrument dans la région. Je ne dis pas les États-Unis seulement, mais c'est tous les pays de l'OTAN. Et c'est quelque chose d'assez fou, cette criminalité qui est impunie et soutenue par l'Occident, qui prétend systématiquement qu'il défend les droits de l'homme. D'ailleurs, je voudrais là-dessus dire que c'est vraiment, maintenant les masques sont tombés aux yeux de tout le monde sur la nature de l'Occident, la nature de ces pays qui prétendent parler de liberté et de défense des droits de l'homme, qui ne sont que des agresseurs permanents et des gangsters qui commettent des crimes contre l'humanité, contre les gens, contre les civils, contre les peuples. Et d'ailleurs, il suffit de voir comment cette entité sioniste traite les Palestiniens. C'est une manière absolument non seulement fasciste, mais je crois que démesurée dans le fascisme. Et il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Et ce soutien abject des pays occidentaux à cette entité fait d'eux aussi des criminels et des complices du crime systématique.
Merci. Alors, Madame Midani.
Aussi.
Alors, Monsieur Luc Michel, les Algériens, cette semaine, ont indiqué que les différents accords qui se sont passés au Moyen-Orient vont permettre à ce que la cause palestinienne soit mieux protégée, qu'il y ait une plus grande unité dans le monde arabe. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos tenus par le président algérien, Monsieur Tebboune? Est-ce que ça va permettre à ce qu'il y ait une plus grande unification sur la manière de dialoguer avec l'entité sioniste concernant les territoires palestiniens occupés et les crimes israéliens?
Bien entendu, on assiste depuis un an, parallèlement au désenclavement de la Syrie, à la relance de la lutte palestinienne grâce principalement à l'Iran et à l'Algérie. Il faut constater cela. Les Algériens, la cause palestinienne qui est un peu mise de côté depuis une décennie aujourd'hui, c'est une cause à niveau populaire et qui bénéficie du soutien de la rue arabe, comme l'a montré la récente, les incidents de la Coupe du monde de football. Donc la Palestine, la cause de la Palestine n'est plus isolée, d'autant plus que c'est le gouvernement israélien qui est isolé. C'est un gouvernement néo-fasciste qui est fait avec les éléments les plus radicaux du sionisme et le Likoud de Netanyahou. Cet isolement qui est même réel aux États-Unis du Likoud, évidemment, il correspond au désenclavement des Palestiniens.
Merci, Monsieur Luc Michel. Madame Dani, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos tenus par Monsieur Luc Michel, rappelant donc aux auditeurs que le Golan syrien est occupé également et subit également une occupation de l'entité sioniste, comme l'est la Palestine, et que pour la Syrie, la question palestinienne n'a jamais été oubliée. Vous-même, vous êtes d'accord? Est-ce que grâce à cette unification qui est en train de se passer, cette énergie, cette synergie, la cause palestinienne pourrait donc plus protégée?
En fait, la cause palestinienne, elle est toujours restée au cœur de tous les peuples arabes et de tous les pays arabes. C'est une profonde injustice, en fait, qui a été même, qui a même été approuvée par les Nations Unies, malheureusement, en 1948. Et je suis d'accord avec les propos de Monsieur Luc Michel complètement. C'est un pays fasciste, l'entité israélienne est fasciste et elle réunit les éléments les plus extrémistes dans leur fascisme, aussi le Likoud et les autres. Maintenant, je peux dire que, en fait, la résistance de la Syrie et le fait de dire, montre que quand on peut gagner, on peut être victorieux, et donc a permis effectivement de donner beaucoup de courage au peuple palestinien qui effectivement a relancé sa lutte et qui s'organise de manière systématique et dans tout le territoire palestinien. En jetant derrière lui les accords d'Oslo, tous ces accords qui visaient à diviser le pays et à donner ce qui ne de manière illégale à Israël, à l'entité sioniste, une grande partie du territoire palestinien.
Merci, Mme
Je pense que Ouais, alors, je pense que de toute façon, là, les Palestiniens vaincront de toute manière.
Alors, je rebondis sur ce que vous dites pour vous poser une autre question sur ces derniers temps, les rapports iraniens en matière de diplomatie indiquent que les premiers mouvements vers la diplomatie, vers les pays arabes, vers l'Iran, vont permettre peut-être d'ouvrir des solutions, de permettre des solutions pour différents autres pays arabes qui seraient intéressés d'avoir de nouveau une diplomatie active avec l'Iran. On a parlé de l'Égypte, on a parlé de Bahreïn, on a parlé de la Jordanie. Est-ce que pour la Syrie, ça va être pareil? Les Émirats arabes unis ne vont pas être les premiers et derniers. Est-ce qu'il y a d'autres pays arabes? Est-ce que vous entendez des échos dans l'actualité syrienne sur d'autres pays arabes enclins à faire un pas vers la Syrie du président Assad?
Ah bien sûr, elle est à moi la question, c'est ça?
Oui, elle est pour vous, Madame Midani. Ce serait vous qui conclurez les débats d'aujourd'hui.
L'Égypte, oui. L'Égypte, par exemple, a repris ses relations avec la Syrie. Il y a eu une visite non seulement de l'ensemble des partis, d'un consortium des partis politiques qui est venu en Syrie, qui ont rencontré Assad aussi. Et il y a eu le ministre des Affaires étrangères égyptien qui est venu en Syrie. Et ces choses, en fait, se préparent. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, peut-être, se préparent du côté de l'Arabie saoudite aussi, parce qu'après cet accord sous l'égide de la Chine entre l'Iran et l'Arabie saoudite, ça permet aussi de poser la question autrement. En fait, tous les pays arabes maintenant se posent la question, non pas par rapport à la Syrie, mais aussi par rapport à une nouvelle politique, à un nouveau positionnement dans ce nouvel ordre mondial. Ils sont tous conscients qu'ils ont un rôle à jouer, beaucoup plus important alors qu'ils étaient marginalisés et pillés par le monde occidental au moment du règne, je dirais, monopolistique américain. Donc là, il y a une prise de conscience sur un rôle qu'on peut avoir, en fait, avec les pays de l'Asie, de la Russie et puis avec l'Iran, dans toute la région, qui va dans le sens d'une prospérité économique et politique de la région, des peuples de la région, et donc d'une opposition, je dirais, aussi à l'hégémonisme américain, et surtout à l'hégémonisme de toutes sortes, parce que là, on tend vers des rapports égalitaires où on traite d'égal à égal avec tous les pays, et en termes de gagnant-gagnant, au niveau des rapports économiques, au niveau des rapports sociaux et des échanges. Donc tout ceci, ce sont des fondements plus sains, je dirais, et qui préparent ce nouveau monde et auquel effectivement les pays se rangent.
Merci,
la Syrie est aussi la pierre angulaire dans la région. De l'axe de la résistance, je pourrais le dire. Et donc, ça aussi, quand on veut la libération de la Palestine, c'est important de traiter avec la Syrie.
Merci, Madame Midani. Merci. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord avec la conclusion de Madame Midani, surtout concernant l'égalité des pouvoirs entre États et le respect de la souveraineté?
Oui, tout à fait. Et une des clés du nouveau monde, c'est le basculement du Proche-Orient. L'Arabie saoudite est passée du côté du bloc de l'Est et les États producteurs de gaz, le Qatar et les Émiratis, ont basculé également du côté du bloc de l'Est. C'est le Proche-Orient qui est en train d'échapper des mains américaines et des mains sionistes, et c'est cela qui est capital.
Merci.
La réception de l'Assad en Arabie saoudite, évidemment, c'est l'événement le plus significatif.
Merci, Monsieur Luc Michel. Je remercie donc à nos experts, Madame Midani, je le rappelle, analyste franco-syrienne, Monsieur Luc Michel également, notre analyste, notamment pour le continent africain. Je vous remercie à tous les deux donc d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce débat et je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Au revoir.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur les manifestations en France contre le projet de réforme des retraites proposé par le gouvernement d'Emmanuel Macron. La police française a tiré des gaz lacrymogènes contre des manifestants, notamment dans la ville ouest de Nantes et à Rennes. À Lorient, des projectiles ont déclenché un bref incendie dans la cour d'un commissariat. Les manifestants ont bloqué l'accès à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, en dehors de Paris, près de Toulouse. Dans le sud-ouest, des tas de débris en feu ont bloqué la circulation sur une autoroute et envoyé des panaches de fumée dans le ciel. Il y a beaucoup de colère. Une situation explosive, a déclaré le dirigeant syndical CGT Philippe Martinez au début d'un rassemblement à Paris. Les dirigeants syndicaux ont appelé au calme, mais étaient en colère contre ce qu'ils ont qualifié de commentaires provocateurs de Macron. Les manifestants étaient encore plus irrités par la décision du gouvernement la semaine dernière de faire passer les modifications des retraites au Parlement sans vote. Les sondages d'opinion montrent depuis longtemps qu'une majorité d'électeurs s'oppose à un report de l'âge de la retraite de 2 ans à 64 ans. Mercredi, Macron a rejeté les appels à cesser de faire adopter son régime de retraite profondément impopulaire. Il a insisté sur le fait que la nouvelle loi était nécessaire et entrerait en vigueur plus tard cette année. Son défi a paralysé le pays. La production d'électricité a été coupée jeudi alors que les syndicats ont fait pression sur le gouvernement pour qu'il retire la loi. L'autorité de l'aviation civile a déclaré que les services de vol continueront d'être réduits le week-end. Les protestations visaient également des dépôts pétroliers et bloquaient un terminal GNL dans la ville de Dunkerque. La législation a fait descendre des foules immenses dans les rues à travers la France lors de manifestations organisées par les syndicats depuis janvier. La meilleure réponse que nous puissions donner au président est qu'il y a des millions de personnes en grève et dans la rue, a déclaré Martinez. Le chef du Parti socialiste, Olivier Faure, a déclaré que Macron, rejetant les appels au limogeage de son premier ministre, Elisabeth Borne, étant l'avant-garde de la réforme des retraites, avait mis plus d'explosifs sur un enfer déjà bien allumé. Les observateurs affirment que la dernière vague de manifestations représente le défi le plus sérieux à l'autorité de Macron depuis les manifestations des Gilets jaunes en décembre 2018 qui ont éclaté à cause des prix élevés du carburant. Les opposants au régime de retraite affirment que les changements auront un impact négatif sur les femmes, les travailleurs du secteur public et les personnes à faible salaire. Ils disent également que le gouvernement donne la priorité aux entreprises et aux personnes bien rémunérées par rapport aux travailleurs moyens. Les affrontements qui ont eu lieu mardi à la raffinerie de pétrole ExxonMobil près de la ville de Marseille ont fait 3 blessés graves selon la préfecture de police de Marseille. Les manifestants ont lancé des projectiles sur la police qui avait envahi le site de la raffinerie avec des gaz lacrymogènes. Plusieurs raffineries du pays n'étant toujours pas en mesure de livrer leurs produits après 2 semaines de grève qui ont perturbé la production et l'approvisionnement en électricité. Rappelons que le gouvernement d'Emmanuel Macron a survécu de justesse à une motion de censure au Parlement lundi. Les réformes de Macron mettraient la France en phase avec ses voisins européens dont la plupart ont fixé l'âge de la retraite à 65 ou plus. Le président français Emmanuel Macron cherche à empêcher les manifestations contre sa réforme qu'il a placé au cœur de sa campagne de réélection l'année dernière. En février, il a déclaré à la presse que le relèvement de l'âge de la retraite était nécessaire parce que l'espérance de vie augmentait en France. Le gouvernement français affirme que sa retraite est essentielle pour sortir son système de retraite du déficit existant d'ici à 2030. Les récentes manifestations anti-gouvernementales en France ont été émaillées de violences policières et d'interpellations de manifestants. Les manifestations anti-gouvernementales se sont poursuivies en France contre le plan de réforme des retraites d'Emmanuel Macron et ont dégénéré en violence avec l'intervention de la police. Les manifestants français sont en colère contre la décision de Macron de relever l'âge de la retraite de 62 à 64 ans et le déclenchement de l'article 49.3. Macron démissionne et Macron va s'effondrer, nous allons gagner, en scandé samedi dernier des manifestants sur la place d'Italie dans le sud de Paris. La police anti-émeute a ensuite utilisé des gaz lacrymogènes et s'est heurtée aux manifestants alors que des poubelles étaient incendiées. Le plan de retraite de Macron a été présenté à plusieurs reprises à l'Assemblée générale au cours du mois dernier, mais n'a pas obtenu suffisamment de voix. Et il y a quelques jours, le président français a demandé à la première ministre d'utiliser des pouvoirs spéciaux pour mettre en œuvre ce plan controversé, selon lequel le gouvernement pourrait faire adopter son plan sans le vote de l'Assemblée nationale. La semaine dernière, des manifestants se sont rassemblés à l'appel du syndicat solidaire Place de la Concorde à Paris, non loin de l'Assemblée nationale, où Elisabeth Borne a déclenché l'article 49.3. Des représentants de plusieurs organisations de jeunesse, syndicats étudiants, organisations politiques à l'initiative de cette manifestation étaient présents. Selon une source policière, ils étaient quelques milliers à Paris, où les forces de l'ordre sont intervenues au début de soirée. Elles ont entré en action notamment avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Selon des sources d'information, de nouvelles manifestations sont prévues dans toute la France dans les prochains jours et ces manifestations pourraient paralyser l'Hexagone qui est déjà en proie à une grève syndicale. Les manifestants ont annoncé dans leur manifestation qu'une retraite digne et confortable était un droit absolu en France. L'échec de la motion de censure constitue un soulagement pour le gouvernement d'Emmanuel Macron. Si la motion avait abouti, elle aurait fait sombrer son gouvernement et mis à mal la réforme visant à repousser de 2 ans l'âge de la retraite à 64 ans, a rapporté l'agence Reuters. Mais le soulagement a été de courte durée. Dans certaines des avenues les plus prestigieuses de Paris, les pompiers se sont empressés d'éteindre les piles de déchets en feu laissées depuis des jours à cause des grèves, tandis que les manifestants jouaient au chat et à la souris avec la police. Plus tôt dans la journée de jeudi, un journaliste de Reuters a vu la police tirer des gaz lacrymogènes et charger les manifestants après que la motion de censure a manqué de peu d'être adoptée. Les syndicats et les partis d'opposition ont déclaré qu'ils intensifieraient les manifestations pour tenter de contraindre le gouvernement à faire volte-face. Le vote sur la motion de censure tripartite a été plus serré que prévu. Quelques 278 députés l'ont soutenu, soit 9 de moins que les 287 nécessaires pour qu'elle soit adoptée. Selon les opposants, cela montre que la décision de Macron de contourner un vote parlementaire sur le projet de loi sur les retraites qui a déclenché les motions de censure a déjà sapé son programme réformiste et affaibli son leadership. Dès l'annonce de l'échec de la motion de censure des élus du parti d'extrême gauche La France Insoumise en criait démission à la première ministre Elisabeth Borne et brandit des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « On se retrouve dans la rue ». Rien n'est réglé, nous continuerons à tout faire pour que cette réforme soit retirée, a déclaré à la presse la présidente du groupe parlementaire LFI, Mathilde Panot. Les partis d'opposition contesteront également le projet de loi devant le Conseil constitutionnel qui pourrait décider de l'annuler en tout ou en partie s'il l'estime contraire à la Constitution.